Chapitre 3. Bonjour, messieurs, dit gaiement Julie en tendant la main à deux visiteurs qui entraient dans sa cuisine. Vous voilà beaux comme des parrains. En l'honneur de ce splendide après-midi de dimanche, Eugène et son frère avaient fleuri leur boutonnière d'un brin de géranium écarlate qui égayait le gris uniforme de leur costume. À vrai dire, Julien était plus embarrassé que charmé de cette décoration qu'il trouvait peu virile. Mais Eugène la lui avait imposée sous peine de son courroux. « C'est très aimable à vous de venir d'aussi bonne heure, reprit Julie. Nous aurons le temps de faire une longue course. Où pensiez-vous aller, messieurs ? Choisissez vous-même, chère future belle-sœur, dit Eugène avec son plus aimable sourire. Peut-être savez-vous qu'on danse à Chasseluse aujourd'hui ? Et que, par conséquent, vous grillez d'envie d'y aller faire des conquêtes. Oui, je le sais très bien, et je ne voudrais pas déranger vos projets. En route donc pour Chasseluse. Fais-toi belle, Julie, dit son fiancé. Toutes les filles du village sont flambantes aujourd'hui. Sais-tu bien que je n'aime pas du tout cette flèche d'acier qui agrafe ton col, mais quelque chose de plus gai. C'est l'épingle que mon oncle m'a donnée à ma fête, répondit Julie à demi-voix. Je la porte pour lui faire plaisir. Julien haussa les épaules. Comme tu voudras, mais un nœud rouge ou bleu serait bien plus joli. Tu as dans ton tiroir un tas de rubans que je t'ai donnés et auxquels tu n'as pas encore fait l'honneur de les porter. Il y avait dans le ton du jeune homme un certain dépit que le pauvre oncle ne discerna que trop bien. Jaloux même de cela, pensa-t-il. Ton fiancé a raison, ma fille, dit-il doucement. Les couleurs gaies sont faites pour les jeunes figures. Mais les garçons n'ont pas plus de goût que des sauvages, répliqua-t-elle en riant. Julien ne veut que du rouge et du blanc. Si je le laissais faire, je ressemblerais au drapeau fédéral. Cependant, comme nous ne nous faisons belles que pour vous plaire, messieurs, je vais tâcher de vous contenter. Oncle, ayez l'obligeance de servir le café à ma place. Beaucoup trop modeste, beaucoup trop, observa Julien quand sa fiancée eut disparu. Je voudrais savoir pourquoi elle n'aime que les couleurs tristes. Le plus frais des rubans roses ne ferait pourtant pas tort à son teint, Dieu merci. Ce serait plutôt le contraire, ajouta-t-il après une pause, employé à contempler en imagination le bel incarnat des joues de Julie. Je lui dis toujours quand je la sermonne sur ce chapitre. Mais regarde donc la nature. Vois-tu que le ciel soit brun et les prés gris? Et les fleurs, est-ce qu'elles s'habillent en noir? Et l'arc-en-ciel, en voilà un qui est assez bariolé, il me semble. Ça n'empêche pas les gens de mettre la tête à la fenêtre, aussitôt qu'il paraît, et de crier « Ah, que c'est beau, que c'est beau !» Mais les demoiselles du village se sont fourrées dans l'esprit que les teintes douces, comme elles disent, sont plus comme il faut, et qu'il est beau d'être habillé de la tête aux pieds d'une seule couleur, comme un meunier qui se serait roulé dans la farine, ou comme si le teinturier les avait plongés tout d'une pièce dans sa chaudière. « À la bonne heure, voilà qui vaut mieux » s'écria-t-il lorsque Julie revint, parée d'un joli nœud de ruban lilas. « Au moins, les gens ne croiront pas que tu viennes d'enterrer père et mère. »« Bois ton café, bavard !» dit Julie en riant. « Il faut penser à se mettre en route, le chemin est long d'ici à Chasseluse. N'êtes-vous pas bien, oncle, que vous ne soufflez mot ?» Le vieillard se tenait assis près du foyer, d'un air très abattu. Dans le futile incident de tout à l'heure, il avait cru voir une nouvelle preuve de l'inconcevable jalousie du jeune homme. Quand Julie, prête à partir, s'approcha pour lui dire adieu, il n'osa pas lui donner un paternel baiser sur la joue, comme il en avait l'habitude, de crainte d'irriter l'ombrageux fiancé. Il se contenta de prendre dans ses vieilles mains ridées la main de sa nièce et lui souhaita une agréable promenade aussi gaiement qu'il put le faire. Puis la petite troupe partit, joyeuse, laissant le vieillard seul avec son chagrin. Heureuse la jeunesse, elle peut fuir le souci dans les sentiers verts, sur les pentes ensoleillées, tandis que la vieillesse reste assise et songe. Le grand air emporte la tristesse, les inquiétudes se perdent en chemin. En traversant les grands pâturages à l'herbe courte et fine, en gravissant les côtes où rougit la fraise, en escaladant les barrières, on oublie tout pour ne plus sentir que la joie physique du mouvement, le bonheur d'être jeune, d'avoir la respiration facile et le pied leste. En quittant la maison, Julie était préoccupée au sujet de son oncle. Mais le spectacle changeant de la vallée vu à travers les clairières, les difficultés du sentier que traversaient de grosses racines noueuses, vinrent bientôt distraire ses yeux et ses pensées. D'ailleurs, il fallut se montrer causante et sociable, car la petite caravane fut rejointe par une société plus nombreuse qui montait avec de grands rires. Le coryphée de la troupe, porteur d'un énorme accordéon, marchait d'un air grave, comme un homme qui désire avant tout éviter des chocs à son instrument. Mais deux autres jeunes gens, armés de larges branches de sapin en guise d'éventail, remuaient leurs bras comme des ailes de moulin à vent, sous prétexte de rafraîchir d'une douce brise les demoiselles qu'ils accompagnaient. Celles-ci, pour maintenir les traditions de leur sexe, poussaient des cris d'aigle chaque fois que les piquantes aiguilles effleuraient de trop près leur visage. Et il fallait voir alors l'intime ravissement des porte-éventails. On s'aborda, on se salua de part et d'autre, et le bel Eugène ne put retenir une romantique exclamation « Ciel, quelle coïncidence !» Il était en effet très remarquable que, dans ce jour où tout le village montait à Châteluz, Mademoiselle Élise Juvet y monta comme les autres, et notre cher ami était bien fondé à croire que le hasard faisait en sa faveur des choses merveilleuses. La petite couturière, ayant lu peu de romans, vit cette rencontre sous un jour moins dramatique, ne rougit ni ne pâlit, et fit prosaïquement observer que M. Robert avait une sauterelle sur le col de son habit. Puis, secourable en action autant qu'en parole, elle envoya d'une chiquenaude l'insecte à longues pattes se promener ailleurs. Ce petit service amical parut à Eugène du meilleur augure. Il remercia avec un sourire plein d'espoir et offrit son bras à la demoiselle qu'il accepta sans façon. Le fait est qu'Alcide Burnier, maréchal de son état et porte-éventail à l'occasion, sur lequel la résolue jeune personne avait dès longtemps jeté son dévolu, faisait attendre un peu trop longtemps la déclaration formelle de sa flamme et qu'il avait besoin d'un petit simulant. Cette combinaison féminine ne manqua pas son effet. Bientôt, des regards farouches annoncèrent à Eugène le dépit de son rival dépossédé. Puis une toux énergique, des « hum, hum » pleins de menaces, furent suivis de vagues allusions à quelqu'un qui pourrait avoir sous peu la tête en marmelade. Enfin, comme ces menus avertissements demeuraient infructueux, le jaloux maréchal, s'élançant à côté de son infidèle, régla son pas sur le sien et ne la quitta plus d'une semelle, suivant de l'œil chacun de ses mouvements et gâtant au pauvre Eugène tout le plaisir du tête-à-tête. Le moyen, je vous le demande, de glisser à son aimable voisine ces tendres insinuations qui ouvrent la voie à de plus douces confidences, avec une sentinelle droite et raide qui ne les lâchait pas plus que leur ombre et qui ne dissimulait pas sa ferme intention de leur vouer jusqu'au bout une surveillance assidue. Vainement, Eugène essaya de presser ou de ralentir le pas, même de s'arrêter tout à fait. Cet effronté maréchal prit toutes les allures et ne chercha pas même à couvrir sa faction de quelque prétexte honnête. Julie, qui marchait derrière au bras de son fiancé, remarquait ce petit manège et s'en divertissait infiniment. « Élise est bien gardée, » dit-elle à Julien. « Pas de danger qu'elle se sauve. » C'est vrai qu'ils la tiennent de près. Crois-tu que mon frère pense à elle pour tout de bon ? C'est clair, mais la petite coquine veut seulement voir si son maréchal n'a que du sang de rave sous les ongles. On allume un morceau de bois en le frottant contre un autre et c'est Eugène qui fera l'office d'allumette pour enflammer le grand Alcide. J'espère que la frottée ne sera pas réelle, dit Julien en considérant d'un œil soucieux les deux rivaux. Ils m'ont assez l'air d'être prêts à s'empoigner de bon cœur. Tu avoueras que les femmes sont perfides, Julie. Elles inventent des manœuvres où le plus fin n'y voit goutte, mais où on se trouve pris les quatre pattes à la fois. À vous la force, à nous la ruse, dit Julien riant. Pauvres hommes, mais arrêtons-nous un instant, il fait si chaud. Le chemin qui mène à Châteluz n'est point des plus faciles. après avoir gravi péniblement jusqu'au sommet d'une première chaîne privée de ce large plateau supérieur qui délasse si agréablement des fatigues de l'ascension, on descend par une pente brusque au fond d'une vallée étroite, marécageuse et toute ravinée par les eaux. Puis, il faut escalader une seconde rampe aride et nue par un sentier rocailleux qui la prend en écharpe et déroule en plein soleil ses blanches sinuosités. Pas une échappée de vue ne vous console de la monotonie du chemin. On n'aperçoit qu'un rideau uniforme de sapin qui ferme l'horizon et, sous ses pieds, le petit vallon avec sa végétation rude et touffue et ses pentes argileuses que les pluies printanières ont sillonnées d'un réseau de rigoles. Il semble que la nature, quand elle traça le plan enchevêtré de ses chaînons perdus, ait dissimulé à plaisir, par mille sinuosités, le panorama splendide qu'on découvre au dernier moment. Toute la société s'était arrêtée pour reprendre haleine à l'ombre de quelques coudriers, et comme ces dames mouraient de soif, les jeunes gens partirent à la recherche de quelques fontaines. Les sources n'étaient pas rares dans le vallon. Bientôt, le grand Alcide découvrit une eau courante fraîche et claire, digne de remplir la coupe d'une reine. Les maréchaux sont gens prévoyants, c'est connu, et un maréchal amoureux plus encore. Avant de partir, Alcide avait fourré dans ses poches une grande quantité d'objets variés qui pouvaient être utiles ou agréables à l'objet de sa flamme pendant la promenade. Il s'y trouvait entre autres une petite bouteille en verre blanc qui devait à l'origine avoir contenu quelques potions pharmaceutiques mais qu'on avait soigneusement rincées et pourvues d'un bouchon neuf. Pourquoi Alcide avait choisi cette bouteille de préférence à un gobelet, je l'ignore. Le cœur de tout homme a ses mystères. Quoi qu'il en soit, le sudit récipient fut soigneusement rempli d'une belle eau limpide et Mademoiselle Juvet n'aurait certainement pas dédaigné d'en approcher ses jolies lèvres car elle était fort altérée. Mais Eugène, tout essoufflé, arriva au même instant et présenta poliment à la jeune personne le plus joli gobelet du monde, plein jusqu'au bord et ruisselant de claires gouttelettes qui le faisaient paraître encore plus brillant. Le maréchal et sa fiole ne purent que s'effacer devant un tel rival. Leur échec eut pourtant une légère compensation. Le gobelet d'Eugène était à double fond, perfectionné et breveté SGDG, sans garantie du gouvernement. On perfectionne tout maintenant, vous savez, et les nouvelles inventions sont si ingénieuses, qu'on ne sait souvent pas comment s'en servir. Mademoiselle Élise était donc en train de boire et le plaisir d'Eugène se reflétait en dépit sur le visage d'Alcide quand le fond du gobelet, un double fond pourtant et perfectionné, vint à se détacher et tomba, suivi naturellement d'une petite cascade qui inonda la robe mince de la demoiselle. Celle-ci ne fit qu'en rire, disant que le soleil aurait bientôt séché cela. Mais Alcide était vengé et sa bouteille aussi. En ce moment, une autre caravane parut au détour du sentier. Elle se composait de trois ou quatre couples qui marchaient à la file, comme en procession, et avec un air de parfaite béatitude. Eugène ne put réprimer un soupir. De toutes les combinaisons possibles des nombres, la plus belle lui semblait être le 2 à 2, et sans cet obstiné maréchal, il en aurait lui aussi goûté les douceurs. Pendant que les heureux couples défilaient, Mademoiselle Élise avait fait de son côté ses petites observations. « Ce sont les quatre filles de Mercier des Cotards, dit-elle. Il faut croire que Mariette est fiancée avec le petit Bélourd, puisqu'ils vont à bras. As-tu vu, Julie, qu'elles avaient toute une fleur au corsage? Si j'y avais pensé, j'aurais bien pu couper un de mes œillets roses. Tu devrais les voir, Julie. La plante a plus de 100 fleurs, presque aussi grosses que des tasses. » Et nous en sentons l'odeur jusqu'au Pré-Bertou, acheva Julie en riant. Tu nous en dis de fortes, Élise. Si j'osais, mademoiselle, dit Eugène, je vous offrirai ce brin de géranium, bien qu'il ne vaille pas vos œillets roses. En même temps, il détacha la fleur qu'il avait portée jusqu'alors à sa boutonnière et la présenta avec un geste arrondi. Ah, merci, fit la petite demoiselle enchantée. Quel beau rouge! Et sans perdre de temps, elle piqua coquettement la branche fleurie dans la dentelle qui entourait son cou, un peu de côté, de façon à ce que les pétales veloutés vinssent doucement caresser sa joue ronde et brune. « Ça me va bien !» dit la friponne en se tournant subitement vers le grand Alcide qui la regardait faire en serrant les poings derrière son dos. Elle était si jolie ainsi, les yeux brillants d'un malicieux triomphe, que le pauvre garçon en reçut comme une secousse électrique. Quelque chose le serra à la gorge et il ne répondit que par un son inarticulé. Je crois bien qu'en cet instant, il fut aussi près des larmes qu'il est permis à un maréchal. Mais dès cette minute, sa résolution fut prise, il obtiendrait Élise coûte que coûte. « Je voudrais bien voir, murmurait-il, que ce gratte-papier de Robert vint ainsi l'enlever à ma barbe, moi qui suis un garçon établi, avec une forge qui chemine et trois ouvriers. Voici 4 mois que je suis aux petits soins pour elle, et du cachou, et des pastilles de menthe, et ce beau dé d'argent. Tout ça vaut bien quelque chose. » Le brave garçon oubliait qu'une heure auparavant, le thermomètre de sa passion marquait 10 bons degrés de moins, et que, le matin même, il s'était répété qu'il serait toujours assez tôt pour s'enchaîner. On n'est pas tenu d'être psychologue, n'est-ce pas, et de savoir qu'un bien devient plus précieux quand il vous est disputé. Quelques moments encore de repos à l'ombre mince des noisetiers, et l'on se remit en route. Élise reprit le bras d'Eugène, mais leur garde du corps s'élança fidèlement après eux, résolue à les suivre jusqu'au bout du monde. Ce n'était pas commode de marcher ainsi trois de front, car ce sentier étroit paraissait avoir été fait exprès pour des amoureux. Alcide devait se tenir sur l'extrême bord du talus, marchant ainsi sur une surface en biseau, très peu favorable à ses semelles. À tout moment, les branches des coudriers venaient lui fouetter le visage et elles réussirent presque à lui enlever son chapeau. Mais il opposait à ses petites tribulations une inébranlable constance. La tête légèrement penchée en avant, l'oreille tendue, il attrapait au vol chaque mot, chaque rire, et malheur à Eugène s'il avait hasardé quelques paroles trop tendres. Jamais amoureux ne fut plus mal à l'aise et plus furieux que ce pauvre Eugène. Si, d'un geste, il avait eu le don de réduire son rival en poussière, Alcide aurait couru grand risque de ne jamais revoir sa forge. Mais Eugène n'était pas belliqueux, et il voyait bien, d'ailleurs, que contre ses poings de maréchal, une partie de boxe n'aurait pour lui nul agrément. Cependant, il ne put contenir tout à fait son dépit. « Le chemin n'est pas assez large pour 3, » dit-il d'un ton raide. « Vous feriez mieux de marcher derrière. » « Merci, merci, ça va très bien, ne vous gênez pas pour moi, » répondit Alcide avec un rire goguenard. Faire enrager son rival est un plaisir de roi. Eugène, voyant qu'il ne produisait aucun effet par voie d'insinuation, méditait quelque autre plan, lorsqu'un bruit de boule roulant sur les planches sonores leur annonça qu'ils arrivaient à la ferme de Châteluz. La maison est bâtie au pied d'une pente, d'où l'on ne découvre rien qu'un coin de prairie et les premiers arbres d'une forêt. 200 pas plus loin, à l'extrémité du chaînon, la vue est magnifique, mais on y sent le vent bien plus que dans cette combe resserrée, et ce sont les lois de la préservation personnelle, plutôt que celles de l'esthétique, qui président à la construction des habitations rurales. On se lasse de contempler le plus beau spectacle, jamais d'avoir un toit sur sa tête. Et les gens qui savent ce qu'est une tourmente dans les montagnes, ceux qui ont vu de ces pauvres toits en bardeaux enlevés d'un coup par la rafale, comprendront que les chalets effarouchés se dérobent derrière tous les plis de terrain aux attaques de leur brutal ennemi. Il y avait déjà beaucoup de monde dans la prairie et autour des tables qu'on avait dressées devant la maison. Un groupe serré se pressait à la porte de la grange, d'où s'échappaient des bouffées d'accord. « À moi la première !» dit Alcide en saisissant la main d'Élise. « Croyez-vous que je vais danser comme ça tout de suite? J'aime la nature, moi, et je vais au signal. Laissez-moi vous offrir au moins quelque chose !» s'écria le maréchal qui avait à cœur d'accomplir tous ses devoirs de chevalier à Compagnadour. Mais, craignant qu'Eugène ne profitât de son absence, il expédia le bon Julien à la recherche d'une sommelière. Puis, quand ces dames eurent avalé un verre de sirop, dit de capillaire, apparemment quelque infusion de mousse sèche, toute la petite société se mit en route pour le signal. Le chemin qu'ils suivaient, un joli sentier sous bois, les amena bientôt sur une crête aiguë de rochers dominant un profond vallon. Ces rochers, taillés à pic et complètement dénudés, ressemblent fort à une gigantesque muraille à créneaux et présentent d'en bas l'aspect d'un vieux castel en ruine, ce qui a probablement valu à la montagne son nom de Chateluse. « Venez avec moi, » dit Julie en prenant Eugène par la main, « et dites si ce n'est pas beau. » Ils firent quelques pas le long d'une pelouse inclinée et s'arrêtèrent juste au moment où la pente devenait brusque et tombante. Devant eux s'ouvrit un verdoyant abîme au fond duquel des maisons aux toits bruns se cachent parmi les vergers. Une montagne aux flancs arrondis, prolongement brisé de la même chaîne, se dresse de l'autre côté et, derrière elle, jusqu'au bout de l'horizon, d'autres montagnes aux croupes sombres se pressent comme un noir troupeau dont d'huleuses vallées se laissent deviner entre elles des cluses et des défilés, profondes entailles creusées par la nature, laissent entrevoir de nouvelles chaînes derrière les premières, des escarpements bleuâtres, des contours de plus en plus vaporeux. Si, quittant ce vague lointain, l'œil revint aux couleurs plus tranchées et aux formes plus nettes du premier plan, il s'arrête avec jouissance sur une droite et large vallée qu'enferment les derniers contreforts des montagnes du Cerf. Un gros bourg aux blanches maisons y dort paresseusement au milieu des prairies, faisant étinceler au soleil les innombrables fenêtres de son séminaire. À droite, une large échancrure, toute hérissée de noirs sapins, entoure comme un cadre un coin de la plaine blonde où miroite le Doubs. Ce sont deux tableaux qui se font valoir par un heureux contraste. D'un côté, la montagne au charme sévère, de l'autre, la grâce riante de la plaine aux champs dorés. Julie, tout à ce beau spectacle, s'assit sur l'herbe pour le contempler plus longtemps. Julien vint se placer à côté d'elle, mais les magnificences du paysage n'attirèrent pas ses yeux aussi souvent que les beautés moins austères qui brillaient sur un frais visage tout voisin du sien. Alcide, étant d'une nature plus pratique que contemplative, se coupait une branche d'églantier qui devait faire un excellent manche de fouet, mais il ne perdait point de vue le couple auquel il avait voué sa surveillance. Mademoiselle Élise s'était perchée sur une pointe de rocher et elle trônait là avec sa fleur rouge sous le menton et son sourire à dents blanches. « Oh » fit-elle tout à coup, « la nature, c'est monotone à la fin. Dormez-vous là-bas ? Julie ne regarde que les montagnes et Julien ne regarde que Julie. Réveillez-vous et allons danser. » Lorsqu'ils arrivèrent près de l'auberge, ils virent que la foule s'y était encore accrue. Toutes les tables étaient garnies, on parlait haut, les verres s'entrechoquaient, les plats de beignets arrivaient à la file, portés par des servantes en tabliers éblouissants. Les blouses de toile bleue des gars franc-comtois, toutes chamarrées de boutons de nacre et de broderies en fil blanc, les paletots citadins, les bonnets coquets des jeunes françaises, les jupons festonnés étalés par quelques merveilleuses et les mantes noires des mères chaperons et les robes aux couleurs vives et les rubans ondoyants, tout cela flottait, voltigeait, se mêlait avec un mouvement incessant et une pittoresque variété. Sur la porte de la grange se pressait une masse compacte de gens qui voulaient à tout prix voir quelque chose. De temps en temps, une tête faisait un plongeon et le vide se remplissait aussitôt. Ce qu'il advenait du malheureux si subitement engouffré, je ne saurais le dire. Il continuait probablement à quatre pattes la lutte pour l'existence et finissait par surgir à l'air libre en dehors de la poussée. « Comment entrerons-nous ? » dit Élise. « Vous nous ouvrirez la route, messieurs. » Eugène avait les coudes pointus, ce qui le servait bien dans les cohues et lui avait déjà procuré la première place à toutes sortes de spectacles. En cette circonstance, il fit manœuvrer avec enthousiasme l'arme dont la nature l'avait pourvu. Et comme, derrière lui, les poings d'Alcide maintenaient la tranchée ouverte, ces dames passèrent sans dommage, bien que l'ampleur de leur jupe fût obligée de se réduire à sa plus simple expression. Julie n'avait pas l'intention de danser, mais elle prévoyait que le moment décisif était venu pour les deux rivaux, et elle désirait assister au dénouement de la pièce. On venait de finir une danse. Les demoiselles, assises sur des bancs peints en rouge-brun qui longeaient les murs de la grange, s'éventaient du mouchoir, tandis que les garçons passaient et repassaient devant elle, les lorgnant à la dérobée, avant de fixer leur choix pour la prochaine invitation. Les deux jeunes filles étaient à peine assises, qu'Alcide et Eugène arrivaient au pas de charge, se tenant prêts à lancer leur demande au premier signal du violon. Cependant, l'orchestre, après s'être longuement rafraîchi, fait digne de remarque, plus les musiciens se rafraîchissent, plus ils paraissent échauffés. L'orchestre venait de remonter sur sa petite plateforme et commençait à préluder. Un mouvement général se produisit parmi les danseurs. Chacun se dirigea vers sa chacune et les demoiselles élues se levèrent en jetant un regard de commisération sur leurs compagnes moins fortunées qui se voyaient réduites au rôle ennuyeux de sécherons. Ce mot, d'une étymologie inconnue, équivaut à notre expression plus polie « faire tapisserie ». Mademoiselle Juvet n'était pas au nombre des délaissés comme on le pense bien. Chez elle, il y avait plutôt d'encombrement. Au premier son des instruments, Eugène et Alcide, arrondissant le bras avec un ensemble remarquable, avaient présenté leur requête à l'unisson. « Mademoiselle, aurais-je le plaisir ?» Mais le maréchal n'arriva pas au bout de sa phrase. Plein du sentiment de ses droits et indigné de la concurrence illégale qui lui était faite, il résolut d'en finir une bonne fois avec l'audacieux. « Ayez l'obligeance de vous retirer, monsieur. Vous me gênez. » prononça-t-il en mettant dans son ton toute l'impertinence dont il put disposer. Pas avant que mademoiselle ait répondu, fit Eugène en secouant fièrement sa crinière frisée. C'était un geste preux et les demoiselles sécherons, témoins de l'incident, en furent vivement impressionnées. Malheureusement, Élise regardait de notre côté, de sorte que son cœur de pierre n'en fut point amolli. Je vous dis que vous me gênez, répéta le maréchal. Quand il avait une fois trouvé un argument, il n'aimait pas à en changer. Cependant, pour rajeunir la seconde édition de celle-ci, il l'accompagna d'une œillade féroce. Eugène, quoique pacifique de nature, n'était pourtant pas un poltron. Il toisa son rival de la tête aux pieds et répliqua « Si je vous gêne, allez-vous-en » C'était une manière toute nouvelle d'envisager la question. Tandis qu'Alcide restait étourdi par la profondeur de cette réponse, le bel Eugène, revenant à Mademoiselle Élise, lui offrit son bras pour la seconde fois. « Mademoiselle, aurais-je le plaisir ?» Mais Alcide venait de retrouver ses esprits et, avec eux, un nouvel argument. « Monsieur, commença-t-il, dans tous les bals, Mademoiselle Juvet m'a donné la première danse. Raison de plus pour qu'un autre ait son tour. » « Il n'y a pas de ça !» cria le maréchal, voyant que dans un combat de langue, sa défaite était certaine. « Je danserai avec elle, ou bien vous sortirez avec moi. »« Sortir, après que nous avons eu tant de peine à entrer ? Ah, ma foi, non ! Allons, mademoiselle, tranchez la question, s'il vous plaît. » C'était déjà fait. Tandis que les rivaux se disputaient comme les deux voleurs de la fable, la belle en litige avait lestement quitté sa place pour aller prendre le bras d'un troisième postulant qui n'osait approcher. « Oh, la coquine ! Oh, la coquine !» fut tout ce qu'Alcide trouva pour épancher son cœur. Il n'avait plus maintenant à s'irriter contre Gênes, aussi penaud que lui. La communauté de leur échec le lui fit plutôt considérer comme un compagnon d'infortune et ce fut presque amicalement qu'il lui frappa sur l'épaule en disant « Bah, bah, il y a d'autres filles au monde !» « Malheureusement pour nous, car elles nous font sécher. » Puis il s'en fut à l'autre bout de la grange, en murmurant toujours entre ses dents « Oh, la coquine ! Oh, la coquine !» Le hasard voulut que le cavalier d'Élise fût un des meilleurs amis d'Alcide. Celui-ci, bien que les idées promptes ne fussent pas son fort, vit le parti qu'il pouvait tirer de cette circonstance. Lorsque le couple dansant passa devant lui, Élise, plus jolie que jamais, avec son air fripon et ses yeux malicieux, Alcide tira le cavalier par la manche, au risque de lui faire manquer la mesure, et lui souffla dans l'oreille « Sois bon garçon et laisse-moi le second tour. À ton service, si mademoiselle y consent. » Élise, on peut le croire, n'y vit pas d'inconvénient et posa aussitôt sa main sur l'épaule de son nouveau danseur. Celui-ci, saisissant l'autre main, l'éleva à la hauteur de son bras tendu, et les voilà partis, ayant chacun un bras en l'air, à peu près comme dans la représentation classique du serment des Trois Suisses. On ne dansait pas autrement du temps de nos grands-pères. Même quand on voulait très bien faire, ces deux bras menaçants s'élevaient et s'abaissaient alternativement, comme un battant de pompe. Cet usage, peu rassurant pour les couples voisins, est tombé en désuétude. Les amis du progrès s'abstiennent même tout à fait du bras en l'air, mais Alcide était conservateur. Pendant le premier tour, il n'ouvrit pas la bouche. Il mûrissait son discours. Enfin, lorsqu'il eut préparé de l'exorde à la péroraison tout ce qu'il avait à dire, il commença en ces termes. « Mademoiselle Juvet, seriez-vous disposée à me faire un plaisir ?»« D'ordinaire, ce sont les messieurs qui font des plaisirs aux demoiselles, » répondit-elle en riant. « Mais je suis bonne fille, vous n'avez qu'à dire. » « Eh bien donc, ôtez au plus vite cette vilaine fleur rouge que vous avez à votre col et venez avec moi la rendre à Robert. Demain, je vous apporterai en échange le plus beau pot de géranium que je pourrai dénicher dans toute la commune. » Ah, la petite rusée avait lieu d'être contente, mais il fallait mener l'affaire jusqu'au bout. « Je veux bien, dit-elle, quoi qu'il me fasse peine de jeter cette pauvre fleur. Elle ne vous plaît donc pas ?»« Non !» Jamais non plus décidé ne sortit de la bouche d'aucun mortel. « Pourquoi ?»« Parce que je ne veux pas que Robert vous fasse des cadeaux. »« Pourquoi ?»« Parce que je ne veux pas qu'il vous courtise. C'est mon droit à moi et je ne souffrirai pas qu'il me le prenne. »« Pourquoi ?» « Ah, quel joli petit pourquoi, tout timide et plein d'attente et d'espoir. »« Pourquoi ? Parce que je vous aime. » Enfin, Élise poussa un soupir de soulagement, mais elle n'était pas encore au bout de sa peine. « Bon, dit-elle, mais ce n'est pas tout, ça, monsieur Burnier. »« Comment, ce n'est pas tout ? Oh non, Eugène Robert me dira bien la même chose si je veux. »« Mais je ne veux pas, moi. » Et comment allez-vous faire pour l'en empêcher ? Je lui dirai que nous sommes fiancés, s'écria le maréchal, trouvant enfin le mot de la situation. Ça y est-il ? Si vous voulez. Ce fut de cette manière poétique qu'Alcide Burnier et Élise Juvet se jurèrent un amour constant et une éternelle fidélité. Le pauvre Gêne pressentit son malheur quand il les vit s'avancer vers lui, la main dans la main. Alcide se trouvait en veine d'éloquence, il voulut porter la parole. « Tenez, dit-il à son concurrent vaincu, en lui tendant la fleur qu'Élise venait de détacher de son col. « Tenez, nous sommes fiancés. À vrai dire, je ne sais pas trop comment ça s'est fait. Je croirais presque que c'est elle qui m'a demandé. C'est une coquine, je vous l'ai dit. Mais dorénavant, elle ne portera plus que mes bouquets. Autrement, ce ne serait pas convenable, vous comprenez ? Et si vous me permettez de vous donner un conseil, ne vous faites pas de mauvais sang pour ça. Vous aurez plus de chance une autre fois. J'ai eu bien du plaisir à faire votre connaissance. Voulez-vous prendre un verre de vin ? Viens avec nous, Élise. » Horreur, il se tutoie déjà, pensa Eugène scandalisé. Il faut qu'elle soit moins bien que je ne croyais. Qui sait si, après tout, elle m'aurait convenu ? Cependant, il enferma soigneusement dans son carnet la pauvre fleur qui n'avait eu qu'une heure de triomphe. Puis, l'ayant embaumée du soupir traditionnel, il remit le portefeuille dans sa poche et se dit que c'était une affaire en règle. « Viens avec nous, Élise, » répéta le fiancé. Car la petite personne, tout occupée à contempler les obsèques du brin de géranium, n'avait pas encore daigné répondre. « Oh non, merci, on a trop de peine à sortir. Allez bravement sans moi. »« Eh bien, adieu, ne t'ennuie pas trop en m'attendant. »« Pas de danger, » répliqua-t-elle. Et elle s'éloigna. Ses fiancés, on le voit, n'appartenaient pas à l'espèce sentimentale. Malgré sa lenteur à prononcer le grand mot, Alcide était sans contredit le plus épris des deux. Mais il était, comme beaucoup de gens, un peu honteux de mettre en dehors ce qu'il sentait. Quant à Élise, elle était évidemment satisfaite de son succès, elle se voyait maintenant casée. Ce mariage lui mettrait les pieds au chaud, ce qui est toujours agréable. Le maréchal était assez bon garçon pour faire un mari docile, point essentiel quand la future a sa tête. Tout cela était fort réjouissant, mais on n'y eut pas trouvé matière à poésie. « Danserez-vous encore ? » demanda Julie à Eugène, qui se tenait près de la porte, appuyée contre le linteau d'un air très abattu et désillusionné. « Non, pas aujourd'hui, » répondit-il avec un soupir destiné à indiquer des peines de cœur d'une nature aiguë. « Nous pourrions alors nous mettre en route pour retourner tout tranquillement à la maison. » « Oh oui, partons. Je ne tiens pas à rester ici une minute de plus. C'est retourner le poignard dans la plaie. » Un nouveau soupir compléta cette déchirante image qui effraya considérablement le bon Julien, un peu trop porté, comme nous l'avons vu, à prendre au sérieux les gens et les choses. « Je pense, dit Eugène en tirant sa montre, lorsqu'ils furent parvenus tous trois sur le sentier, que j'aurai juste le temps de boucler ma valise et de prendre la dernière poste ce soir. Je ne saurais passer ici une nuit de plus, le sol me brûle les pieds. » Il y avait décidément abus de métaphore. Ce sol brûlant venant après ce poignard, c'en était assez pour accabler Julien, qui paraissait beaucoup plus consterné que son frère. « Qu'as-tu ? Qu'est-ce qu'on t'a fait ? » demanda-t-il, attendant à coup sûr la révélation de quelque affreux mystère. « Elle a pris le maréchal, » répondit Eugène d'un ton tragique. « Si j'avais parlé 5 minutes plus tôt, le cours de deux vies aurait été changé. Mais, naturellement, elle ne prévoyait pas ma demande, elle s'est engagée. Tout est fini. » Là-dessus, il prit les devants et disparut bientôt sous les sapins, dont l'ombre noire convient aux infortunés. Pendant un moment, le sensible Julien philosopha mentalement sur ce texte. À quoi tiennent pourtant les choses ? Puis il fit part de ses réflexions à Julie. Au premier mot, elle sourit. « Bon, dit-elle, si ton frère a du plaisir à croire ça, je ne voudrais pas lui ôter cette petite consolation. Mais toi, ne va pas te mettre sans dessus-dessous à cause de ces 5 minutes. Une demande en mariage n'est pas comme une course au sac, le prix pour celui qui arrivera premier. » Eugène aurait eu beau courir comme un lièvre et se présenter 50 minutes plus tôt, il n'aurait pas obtenu Élise. Elle savait bien ce qu'elle voulait, je t'assure. La version poétique de cette déconvenue amoureuse ne s'en répandit pas moins avec une prodigieuse rapidité. Chose étonnante, car Eugène ne confia les raisons de son brusque départ qu'à 2 ou 3 amis sûrs qui lui jurèrent naturellement un inviolable secret. Que les 10 amis se fussent déchargés de cette confidence dans l'oreille de leur plus proche voisin, c'est ce qu'il n'est pas permis de supposer, car le petit péché d'indiscrétion est, comme on sait, l'apanage exclusif du beau sexe. Quoi qu'il en soit, dès le lendemain matin, tout le village eut connaissance de la démarche trop tardive d'Eugène Robert et de la réponse authentique d'Élise Juvet. « Il y a 5 minutes, j'aurais pu être à vous. Maintenant, je suis engagé. Vous n'avez plus qu'à m'oublier, comme je tâcherai de vous oublier moi-même. » Les mieux informés prétendaient encore qu'elle avait ajouté, avec un profond soupir, « Mais ce sera difficile. » Plus d'une jeune fille sentimentale s'écria que c'était comme un roman et versa une ou deux larmes sur cette fatalité mystérieuse. Les garçons se mirent à taquiner le maréchal, entrant à la forge, exprès pour demander d'un air fin « Alcide, est-ce que ta montre n'avance pas de 5 minutes ?» Ce n'était ni très spirituel, ni très méchant. Mais le maréchal en colère déclara un beau jour que le premier qui aurait envie de savoir l'heure n'avait qu'à s'approcher et qu'il verrait des étoiles en plein midi. Cet avertissement amical produisit son effet. Élise protestait de son côté contre l'auréole de martyr dont on voulait la coiffer. Mais l'histoire avait plu. Elle faisait bien dans les annales de la localité, personne ne voulut en démordre. Quelques-uns, même, trouvèrent mauvais que la petite couturière, après le fatal événement qui brisait son existence, conserva son pas alerte et ses joues roses. Mais d'autres déclarèrent qu'elle avait raison de sauver les apparences et de cacher la violence de son chagrin sous un masque de gaieté. De par la voie publique, elle fut décrétée victime et, du même coup, on condamna Eugène aux regrets éternels. Ce qui n'empêcha pas Élise de se porter comme un charme, ni Eugène de chercher dès le lendemain à qui il pourrait bien offrir son cœur. Mais nous avons anticipé, revenons au moment présent. Julien et sa fiancée descendaient lentement à travers les pâturages, jouissant de cette belle heure d'air tiède et de douce lumière qui précède le coucher du soleil. Le souvenir pénible de leurs différends des jours passés était effacé complètement. Ils s'entretenaient de plans d'avenir, heureux et assurés de leur mutuelle affection. Plus de paroles amères, ni de regards soupçonneux, en pensant à sa folle jalousie, Julien riait de lui-même. C'est qu'aussi, tante Judith n'était pas là. Mais elle, la bonne dame, n'oubliait point ses neveux, et la fin de cette journée réservait à Julie un cruel chagrin. Quand, après avoir pris congé de Julien, elle revint à la maison, l'oncle était seul dans sa chambre, assis près de la fenêtre et regardant d'un air rêveur à travers les vitres sombres. « Bonsoir, ma fille, » dit-il en se retournant. « Tu as fait une bonne promenade ?»« Très bonne, et j'ai bien des histoires à vous raconter. Comment êtes-vous ce soir? Marie a-t-elle su préparer votre goûter ?»« Oui, oui, rien ne m'a manqué. » Mais assieds-toi là, Julie, j'ai aussi quelque chose à te dire. » La jeune fille obéit, étonnée, même un peu alarmée, du ton grave qu'avait pris le vieillard. « Ma chère Julie, commença-t-il en posant tendrement sa main sur celle de sa nièce, j'ai bien réfléchi ces derniers temps à ma position chez toi, et pour des raisons que tu comprendras facilement, sans que j'aie le chagrin de te les dire, j'ai trouvé qu'il valait mieux nous séparer. » Julie tressaillit et fit un mouvement pour parler, mais elle se contint. « Ma belle-sœur Judith est venue me voir cet après-midi, » continua l'oncle David. « Nous avons causé ensemble et c'est chez elle que j'irai en vous quittant. »« Oh, mon oncle !» s'écria Julie. Et se laissant glisser à genoux près du vieillard, elle entoura de ses deux mains le bras fidèle qu'il avait protégé depuis son enfance. « Restez, restez » sanglota-t-elle, presque sans savoir ce qu'elle disait. « Non, mon enfant, cela vaut mieux ainsi, » répondit-il d'une voix douce et ferme. Julie se releva aussitôt. « Vous avez raison, » murmura-t-elle, « je n'insisterai plus. » « Tu n'en resteras pas moins, ma nièce chérie, » reprit l'oncle, « et nous nous verrons souvent. Je serai très bien chez Judith. »« Je n'en doute pas, » fit-elle avec amertume. Elle ne voyait que de l'égoïsme dans ses paroles, si pleines en réalité de délicatesse et de tendre ménagement. Il eût pourtant suffi de bien peu de choses pour déchirer toute la trame. Un seul mot, si le hasard compatissant l'avait amené sur leurs lèvres, eût dissipé sans retour ce déplorable malentendu et leur eût épargné les douleurs d'un inutile sacrifice. Mais ce mot-là ne fut pas prononcé et le vieillard se sépara de sa nièce, le cœur plein d'une mortelle tristesse. « Elle sera plus heureuse sans moi, » pensait-il en la regardant s'éloigner. « Et si la séparation m'est trop dure, eh bien, je suis vieux et Dieu aura pitié. » Julie, dans la solitude de sa chambrette, murmurait au milieu de ses larmes « S'il espère avoir la vie plus douce ailleurs, qu'il aille, mais je ne sais ce que je ferai sans lui !»